Jésus avait dit dans la synagogue de Capharnaüm, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu s'écrièrent, « Ce qu'il dit là est intolérable, on ne peut pas continuer à l'écouter. » Jésus connaissait par lui-même ces récriminations des disciples. Il leur dit, « Cela vous heurte, et quand vous verrez le Fils de l'homme, montez là où il était auparavant. C'est l'esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en allèrent et cessèrent de marcher avec lui. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui pourrions-nous aller ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Chers frères et sœurs, pourquoi suivre le Christ? Cette question est au centre de notre vie et habite le cœur de chacun d'entre nous. Qu'est-ce qui peut vous pousser, vous les enfants, au risque de paraître ridicule auprès de vos amis de l'école, vous aussi les jeunes, vous les familles, à marcher à la suite du Christ? À chercher à rendre votre vie semblable à celle du Christ. Qu'est-ce qui peut vous pousser à venir communier ce matin ici au corps du Christ ? Permettez-moi de méditer avec vous ce grand mystère. Dimanche dernier, Jésus présentait à la foule un discours bien difficile à comprendre. « Ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. » « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. » Ces paroles arrivent juste après la multiplication des pains, au moment où Jésus fait le discours sur le pain de vie. Mais le peuple n'a pas forcément très bien compris la profondeur de ce miracle. Ils ont mangé du pain, ils ont été rassasiés, et c'est pourquoi ils suivent Jésus. Mais cela ne suffit pas. Dieu n'a pas envoyé son Fils, son propre Fils, son unique, son bien-aimé, pour donner du pain aux hommes. L'association des boulangers altermondialistes aurait suffi à l'affaire. Le Christ, lui, est venu apporter la vie au monde, sa propre vie. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Le plus scandaleux, pour ses auditeurs, c'est qu'il se donne lui-même comme pain de vie. Il propose un Messie crucifié qui se donne en nourriture. On peut bien le comprendre, ses paroles provoquent des doutes. Chez beaucoup, et même certains se mettent à murmurer. Conscient de la difficulté à comprendre ses paroles, Jésus met ses auditeurs au pied du mur. Il leur impose à faire un choix. « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Alors, certains s'en vont, mais d'autres, avec Pierre, font mémoire de tout ce temps passé avec le Christ et se souviennent de ses paroles, et que ses paroles sont esprit et vie. « Seigneur, vers qui pourrions-nous aller ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et c'est seulement après avoir fait mémoire de tout ce que le Christ a fait pour eux, qu'ils peuvent enfin professer leur foi. Quant à nous, nous croyons et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. Quelque temps avant, avec Josué, qui est, vous le savez, le successeur de Moïse, qui a libéré les Hébreux d'Égypte, où se sont opérés de nombreux signes, la manne, l'écaille, la nuée qui guidait les Hébreux dans le désert, c'est Josué qui va faire entrer les fils d'Israël en terre promise. Et là, il va réunir toutes les tribus d'Israël à Sichem, alors que toutes les difficultés du chemin les poussent à revenir aux idolâtries du passé. Il leur impose aussi de faire un choix. S'il ne vous paraît pas bon de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, soit les dieux des Amorites dont vous habitez maintenant le pays. Alors pour faire ce choix, Israël va aussi faire mémoire de tout ce que le Seigneur a fait pour eux. Il va se souvenir. C'est le Seigneur, notre Dieu, qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage. C'est lui qui, sous nos yeux, a opéré tous ces grands prodiges et nous a protégés tout au long du chemin que nous avons parcouru. Alors, tous d'un seul cœur, ils vont répondre à Josué, « Non, c'est le Seigneur, notre Dieu, que nous voulons servir. C'est à sa voix que nous voulons obéir. Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. » Ainsi, nous le voyons, Josué va faire l'unité du peuple autour de lui et autour de Dieu. Il va inviter toute l'assistance à s'engager comme lui au service du Dieu d'Israël. Il leur impose de prendre une décision et de faire le choix de Dieu et de professer leur foi. En effet, il ne leur suffisait pas de suivre aveuglément les traces de leur père, car les tempêtes, nous le savons bien, et les épreuves du chemin viennent bousculer tout ce qui n'est pas bien enraciné, tout ce qui n'est pas approprié. Chacun, individuellement, doit assumer l'héritage de ses parents pour le faire sien. C'est en faisant mémoire de tout ce que Dieu a fait pour eux qu'ils peuvent librement et personnellement choisir et adhérer à Dieu et à toutes ses paroles de vie. Ces deux passages du livre de Josué et de Saint Jean nous invitent à choisir qui nous voulons servir et à professer notre foi. En effet, je pense que beaucoup en ont fait l'expérience, l'amour implique un choix. Si nous sommes tous réunis ce matin, ce n'est pas pour perpétrer une vieille tradition familiale ou picarde, ou même sociale, mais c'est pour signifier notre attachement à la personne du Christ. Outre l'amitié qui nous rassemble, c'est le Christ vrai Dieu et vrai homme qui se donne en nourriture sur cet autel. Lui qui nous attire, c'est lui qui nous réunit, car nous avons besoin du pain descendu du ciel pour avoir la vie. Notre communion au corps du Christ est avant tout un acte de foi. C'est-à-dire que nous avons choisi le Christ comme unique pain de vie, notre seule nourriture. Notre amour et notre choix du Christ est avant tout un acte de notre intelligence qui va éclairer notre discernement. Mais qu'est-ce exactement que cette foi au Christ ? L'Église, notre Sainte Mère l'Église, nous dit que c'est une adhésion personnelle de l'homme à Dieu. C'est l'assentiment libre de toute la vérité que Dieu a révélée. L'Épître aux Éphésiens que nous venons de lire nous donne une belle explication. Même, il faut le dire, si le thème de la soumission n'est pas très à la mode aujourd'hui, et que l'exemple du couple que donne saint Paul fait souvent sourire les maris et grimacer les épouses, nous avons là un bon éclairage sur l'attitude de l'homme nouveau uni au Christ. Saint Paul propose deux commandements, celui de la soumission et celui de l'amour. Mais il ne faut pas se tromper. Le premier, c'est celui de l'amour. Et le second, qui découle du premier, c'est celui de la soumission. C'est parce que l'homme aime radicalement sa femme et s'offre en sacrifice pour elle que son épouse pourra joyeusement se mettre dans une attitude de service pour se donner à lui et entrait dans une adhésion pleine et entière au projet de son mari. Ainsi, tous deux ne feront plus qu'une seule chair. Nous sommes là, bien loin de cette attitude de servitude tant décriée aujourd'hui. Eh bien, il en va de même dans notre relation à Dieu, dans notre acte de foi. C'est parce que Dieu nous a aimés en premier, parce qu'il a pris l'initiative de nous donner son propre Fils, que nous sommes appelés à le servir et à l'aimer en réponse. Pour cela, il nous faut nous arrêter pour faire mémoire de tout ce que Dieu a déjà réalisé en nous. Je crois qu'il est juste et nécessaire de relire sa propre vie en regardant honnêtement la présence de Dieu dans notre histoire, dans les moments heureux comme dans les moments douloureux. Ainsi, nous pourrons contempler son visage et le choisir comme unique compagnon de route. La profession de foi est tout simplement cet acte de reconnaissance. Vous l'avez compris, la foi ne vient pas d'abord de nous, elle est un don de Dieu, et cela bien depuis bien longtemps, bien avant que nous l'ayons mérité et bien avant que nous ayons pris conscience de son amour. Et c'est pour cela que Jésus peut dire « Nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père ». C'est Dieu qui fait le premier pas, c'est lui qui aime en premier, qui nous choisit et nous donne de le suivre en retour. Pour cela, vous l'avez compris, nous devons faire mémoire, et cela est nécessaire pour raviver notre foi. Permettez-moi, en ce jour où je célèbre ma première messe, de faire mémoire aussi, pour rendre grâce pour toutes les merveilles que le Seigneur a faites dans ma vie. Si j'ai pu le suivre et me mettre à son service, si j'ai pu m'engager dans la communauté des serviteurs de Jésus et de Marie depuis un peu plus de 10 ans, c'est que j'ai fait l'expérience de son amour et de sa sollicitude à mon égard, tant dans la joie que dans les larmes. En premier lieu, je tiens à rendre grâce pour mes parents. La fidélité de mon père et de ma mère m'a fait grandir dans la confiance et dans l'assurance de me savoir aimé et soutenu dans mes engagements. Je les remercie d'avoir accueilli dans la paix et la joie mon entrée dans la congrégation. J'ai une pensée toute particulière pour ma mère qui nous précède au ciel. Que le Seigneur bénisse mon père et lui accorde le réconfort nécessaire pour continuer à veiller sur la famille. Je rends grâce aussi à Dieu pour mes frères et sœurs et chacune de leurs familles. Ils ont été un repère sur ma route. Excusez-moi. Des exemples de vocation au mariage épanouie et généreuse. Ils demeurent des soutiens fidèles dans ma vie religieuse. J'ai une pensée toute particulière pour mon frère aîné, Eric, qui a rejoint la maison du Père. Et j'implore chaque jour le Seigneur pour qu'il soutienne Marie-Véronique et accompagne ses filles. Comme vous pouvez le comprendre, la famille a été mon premier lieu de reconnaissance, de connaissance et d'expérience de Dieu. C'est pour cela qu'aujourd'hui je peux faire mémoire. Je dois rendre aussi grâce pour le scoutisme, qui a été pour moi un haut lieu d'éducation, humaine et spirituelle, en plus de ma famille. Par les diverses activités et les personnes rencontrées, j'y ai lié mes plus grandes amitiés, j'y ai découvert les dons que le Seigneur avait déposés en moi et j'y ai appris à aimer l'Église. Enfin, je tiens à rendre grâce à Dieu pour mes frères de communauté, que ce soit en France, en Argentine ou en Alsace. Par leur patience à mon égard et leur fidélité à notre fondateur, le Père Lamy, ils m'ont fait entrevoir le mystère de la vie religieuse. À la suite du Christ, je les remercie de m'avoir accueilli en leur sein et de m'avoir accompagné dans ma consécration. Aussi, je leur suis reconnaissant pour ce temps d'études qu'ils m'ont accordé, investissement que je sais financier, humain et spirituel. Pour terminer, je voudrais me tourner vers la Vierge Marie, notre bonne mère du ciel. Je me confie à elle et remets à sa protection ma vocation de religieux et de prêtre. Aussi, je vous recommande à elle, chacun, particulièrement, qu'elle nous accompagne sur le chemin qui mène à son Fils afin que, rassasiés par cette Eucharistie, nous puissions avec joie poursuivre notre pèlerinage sur la terre dans l'espérance de goûter un jour la plénitude du ciel. Amen.